L'expertise en écriture, pour comparer, vérifier, prouver qu'une signature est litigieuse, qu'un chèque est falsifié, pour identifier les faussaires, les auteurs de lettres anonymes ou les corbeaux délateurs. L'expertise en écriture est davantage une technique qu'une science. Pourtant, elle obéit à un savoir-faire de plus en plus pointu et rigoureux.
Suzanne Schmidt, vous êtes expert en écriture et en documents. C'est quoi la différence avec l'expert ou l'expertise en graphologie ?
Alors, la graphologie n'est pas une spécialité expertale. La graphologie consiste à analyser et interpréter l'écriture d'une lettre afin de définir la personnalité, de dévoiler le caractère de celui qui l'a écrite. Alors que la comparaison d'écriture a pour objet d'identifier le rédacteur ou le signataire d'un document litigieux en utilisant la comparaison.
Vous vous intéressez d'abord au document lui-même avant de vous intéresser à l'écriture, ça se passe comme ça?
Absolument. C'est-à-dire que le document lui-même peut parler de lui-même. Alors qu'est-ce qu'on fait? On utilise d'abord un microscope pour faire un examen optique du papier. Cet examen va permettre notamment de vérifier si le document litigieux est original ou s'il s'agit d'une reproduction. Ça permet de vérifier s'il y a des anomalies sur le papier, telles des grattages, des gommages, des tracés sous-jacents, parce qu'il arrive qu'on écrive au crayon à papier, on repasse à titre de modèle, et on repasse sur le tracé avec de l'encre. Et ça permet aussi de différencier les caractères typographiques.
Donc vous avez l'observation au microscope, et puis vous avez aussi un appareil, vous avez une mallette spéciale. Qu'est-ce que c'est cet appareil?
Absolument, c'est un appareil miniaturisé, qui permet notamment de faire des différences d'encre grâce à l'infrarouge.
Expliquez-nous comment ça marche.
Alors, on va faire un test, tout simplement, avec un testament. Qu'est-ce qui peut être falsifié sur un testament?
La
règle
somme.
Générale, c'est la somme. Voilà, la somme ou la date.
D'accord.
Donc, je vais vous faire une démonstration. Le testament de prime abord, c'est exactement la même encre quand on le regarde.
Ça.
Il n'y a pas de différence d'encre nulle part. On va quand même vérifier s'il n'y a pas eu de falsification, de rajout, etc. Là, je suis sur les zéros du montant. J'avance. Tous les zéros sont à peu près de la même encre. Ce que je vais faire maintenant, je vais changer de longueur d'onde au niveau de l'infrarouge. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on s'aperçoit tout simplement que deux chiffres et un point ont été rajoutés. Même si, à l'œil nu, on a l'impression que c'est la même encre, en définitive, c'est un rajout qui a été fait.
Donc là, on s'est intéressé au document, mais vous allez aussi vous pencher sur l'écriture. Et là, comment ça se passe?
Bien sûr, on va regarder l'écriture de très près en utilisant une méthodologie précise. C'est-à-dire que dans le premier cas, on va faire un examen intrinsèque du document litigieux, sans tenir compte du dossier de comparaison. On va procéder à tous les examens optiques, spectraux, etc. dont on a parlé. Ensuite, on va uniquement traiter le document de dossier de comparaison.
On rappelle que le dossier de comparaison, c'est l'original.
Le dossier de comparaison est constitué de pièces manuscrites de comparaison, c'est-à-dire écrites par la personne suspectée. Ce dossier de comparaison, pour qu'il soit fiable, doit contenir à la fois des documents qui sont antérieurs, contemporains et postérieurs aux documents à examiner. À ce moment-là, on va procéder à l'étude comparative, à savoir comparaison entre l'écriture et la signature du document litigieux avec les documents de référence.
Et si on vous demande de comparer une écriture avec celle d'une personne qui est décédée, comment faites-vous?
Alors on va rechercher des documents dans son lieu de domicile, on va rassembler tout ce qu'on trouve et on va essayer aussi parallèlement de trouver des documents officiels dont on est sûr que c'est bien elle qui a porté les mentions manuscrites et les signatures sur les 10 documents, qui eux vont servir de référence pour vérifier que tout ce qu'on a glané par ailleurs est bien de sa main.
Est-ce que par exemple des mots croisés, ça peut suffire?
Ça peut être utile à condition que le document litigieux soit constitué de capital d'imprimerie.
Et c'est ce qui s'est passé dans l'affaire Omar Radad. Le 24 juin 1991, à Mougins, les gendarmes découvrent le corps inanimé de Guylaine Marchal au fond de la cave de sa villa. Sur une porte blanche, cette inscription « Omar m'a tué ». Tracée avec le sang de la victime, cette phrase, avec sa faute d'orthographe, entrera dans l'histoire. Elle a mené Omar Radad devant les assises. Le lendemain de la découverte du corps de Guylaine Marchal, Omar Radad est arrêté. Le jardinier est mis en garde à vue, puis écroué. Le prévenu clame son innocence, mais la veille, il travaillait chez une voisine de la victime. Pour les gendarmes, c'est clair, Omar Radad a largement eu le temps d'aller voir Guylaine Marshall pour la tuer. Et puis surtout, il y a les deux inscriptions. Une parfaitement lisible, « Omar m'a tué », et une autre, restée inachevée, un peu plus loin. Mais ces messages ont-ils vraiment été écrits par la victime ? Cette femme grièvement blessée a-t-elle pu écrire elle-même, avec son propre sang, cette phrase à deux reprises ?
Les blessures qu'avait Mme Marshall étaient multiples, importantes, mais absolument pas mortelles, immédiatement mortelles. On sait par exemple, c'est prouvé, que même avec une plaie cardiaque, on peut faire ce qu'on appelle des actes de survie encore pendant quelques minutes. Donc dans le cas de Mme Marshall, si tant est que c'est bien elle qui ait écrit ce qui est inscrit sur la porte, ce sur quoi je ne suis pas compétent, mais en tout cas, physiquement, elle pouvait tout à fait le faire.
Rien n'a été noté qui permettait d'affirmer que ce cerveau avait souffert suffisamment, si vous voulez, pour empêcher la personne d'être consciente, autrement dit lucide.
Que Mme Marshall ait pu écrire cette lettre ne signifie pas forcément qu'elle l'a écrite. Le juge d'instruction demande une expertise en écriture suivie d'une contre-expertise demandée par la défense. Les experts travaillent chacun de leur côté, sans se consulter. Et ils arrivent à la même conclusion, Guylaine Marshall est bien l'auteur de ces inscriptions.
C'est une écriture facile à tracer sur un plan vertical. Or, que sait-on ? On sait que Mme Marshall utilise très couramment cette écriture, notamment dans ses mots croisés. Donc, c'est un spécimen d'écriture qu'elle maîtrise parfaitement.
La lettre R est une lettre très très typée chez elle. Alors, effectivement, on n'en retrouve pas. Tous ces R ne sont pas tracés de la même manière. Mais on en retrouve certains, je dirais en nombre suffisant pour établir une concordance fiable. Elle fait un R comme ça, elle part du pied. Et elle le trace en une fois, là. Comme ça, elle monte. Elle redescend. Et ça, c'est un geste très, très typique chez elle, qu'on retrouve dans ses écrits et que j'ai mis en évidence dans mon expertise. C'est un E qu'elle fait tout à fait, ça. Un E tracé d'abord en L, avec un sommet très rond, une base très ronde, et elle a ajouté les deux barrettes, supérieure et médiane. C'est pas une lettre bâton, comme on en voit dans des lettres anonymes, avec trois traits qui croisent une barre verticale. C'est une lettre tracée de manière spontanée. Et j'ai pu montrer qu'il y avait des similitudes tellement évidentes entre ces lettres que ça ne pouvait être que Mme Marshall qui avait écrit.
Et la faute d'orthographe ? Est-elle digne d'une femme très cultivée ? Une habituée des mots croisés, justement ?
C'est vrai qu'on s'est beaucoup attaché à cette faute d'orthographe. Je ne dirais pas qu'elle était coutumière du fait, mais on a retrouvé des fautes dans ses écrits. Donc je pense que quand on se voit mourir, on n'est peut-être pas tellement attaché à l'orthographe. Voilà.
Mais Guylaine Marshall aurait-elle pu écrire ces messages sous la menace et la contrainte ?
Quand vous guidez la main de quelqu'un, quand vous prenez sa main et que vous l'obligez à écrire, il y a une opposition de force qui se produit. Parce que c'est souvent l'empreinte finalement du scripteur qui tient la main qui va déterminer le geste graphique et non pas celui qui écrit. Et là, on n'a pas senti d'opposition de force. On a vu une écriture normalement dégradée, compte tenu effectivement de l'état de Mme Marshall.
L'expertise est donc accablante pour Omar Radad. Si Guylaine Marshall a bien écrit ces mots avec son propre sang, c'est qu'elle a dénoncé son agresseur. Printemps 93, le juge d'instruction clôt l'enquête et renvoie Omar Radad devant les assises. Son procès s'ouvre le 24 janvier 1994 à Nice. Les journalistes sont nombreux et penchent pour l'innocence du jardinier. Et au cinquième jour du procès, on en vient enfin à l'essentiel.
L'audience reprend, Omar Radad rentre. Et à ce moment-là, le président, assez impérial, demande à des huissiers, dit que l'on montre les portes. Et à ce moment-là, on enlève le plastique et on voit la fameuse inscription « Omar m'a tué ».
Et quand on voit ces portes, je vous assure que ça, c'est un truc qu'on n'oublie jamais. Et surtout, parce qu'on voit l'agonie, on voit l'agonie de la victime. Surtout sur la deuxième porte, c'est-à-dire la porte sur laquelle est inscrit « Omar m'a tué ». et qui s'arrête sur le T, parce que la phrase ne peut pas être terminée. Et à ce moment-là, on voit à la fois, d'abord, la phrase décline vers le sol. Le verbe ne se termine pas. On voit des traces d'appui de main de quelqu'un qui s'appuie, qui s'accroche, qui essaye de s'accrocher à cette porte pour finir sa phrase, mais qui n'y arrive pas et qui tombe et qui tombe et qui tombe. Et on voit des dégoulinades comme ça, des traces de sang, de mains ensanglantées qui glissent sur la porte et ça s'achève en bas. Et on voit la personne qui essaye de se rattraper parce qu'il y a des doigts comme ça qui... Et puis, hop! Et là, on se dit, si c'est quelqu'un qui a simulé totalement ses inscriptions, le mec, il est vraiment fort. Parce que pour arriver à faire ça...
On voit la tête d'Omar Radad qui blêmit. Il n'avait jamais vu, j'imagine, ses inscriptions auparavant. Et à ce moment-là, le président, sentant Omar dans un moment de faiblesse, qui découvre l'inscription, qui en tout cas le désigne, lui dit « Omar, qu'est-ce que ça vous inspire ?» Et Omar, toujours via son interprète, répond « Je ne vois pas en quoi ça me concerne. » Le président lui dit « Asseyez-vous, on va vous l'expliquer tout à l'heure. » Et j'ai eu le sentiment que là, le procès avait basculé et que Omar Radad était, pardonnez-moi l'expression, dans la nasse.
Les experts en écriture viennent à la barre et ils confirment. Pour eux, ces écrits sont bien l'œuvre de Ghislaine Marchal. Mais ils avouent devant la cour que c'est cet affaiblissement physiologique de la main de la victime d'une porte à l'autre qui a emporté leur conviction. L'analyse de l'écriture en elle-même ne les aurait convaincus qu'aux deux tiers. Il reste donc un doute.
Si je ne peux me prononcer que sur les lettres sans tenir compte justement du contexte général, c'est évident, je ne peux pas être certain. C'est pour ça que j'ai dit deux tiers, un tiers.
Les expertises en écriture ont pourtant pesé lourd. Et le 2 février, Omar Radad est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Plus tard, un comité de soutien a demandé la révision du procès. Une révision qui n'a toujours pas eu lieu. Une nouvelle expertise en écriture a bien été demandée par la Cour de cassation. Mais les experts n'ont pas pu se prononcer.
Alors, dans l'affaire Omar Radad, qu'est-ce qui a rendu difficile l'expertise de l'écriture ?
Alors, les écrits sur les deux portes étaient à la verticale.
C'est-à-dire, le scripteur avait écrit comme ça ?
C'était sur un mur,
sur
la
verticale. C'est pas un document posé à plat.
Ce n'est pas le document posé à plat.
Qu'est-ce que ça change ?
Ah, ça change beaucoup de choses. On n'écrit pas de la même manière sur un mur à la verticale que sur une table et à plat. Donc la difficulté aussi de cette affaire, c'est que la personne, la victime étant décédée, on ne pouvait plus lui demander d'écrire à la verticale.
Et c'est une écriture bâton.
C'est une écriture en capitale d'imprimerie qui est d'autant plus difficile justement à expertiser, puisqu'on n'a pas de modalité de liaison qui, en règle générale, contiennent des automatismes.
Ouais. Alors au procès, dans l'affaire Omar Radad, les experts ont dit qu'ils étaient sûrs aux deux tiers. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, ça montre tout simplement qu'ils avaient un doute. Et ce doute, il y a des affaires, on ne peut pas se prononcer, on ne peut pas être affirmatif à 100%.
Suzanne Schmitt, on a ici un document que vous nous avez apporté. C'est une affaire judiciaire sur laquelle vous avez travaillé directement. On vous a demandé de comparer des écritures. Expliquez-nous comment vous avez fait.
Donc, nous avons ici la lettre anonyme. Ici, nous avons une des pièces de comparaison écrite sous dictée.
Et alors, qu'est-ce que vous constatez ?
Alors, pour comparer ces deux écritures-là, nous avons quelque chose de très particulier. Nous avons cette ondulation sur semelle qu'on retrouve à l'identique dans le document de comparaison.
Que vous avez tracé en jaune.
Voilà, qui est surligné. La ligne de crête et la ligne de base sont surlignées de jaune de part et d'autre.
Quoi encore ?
Ensuite, nous avons sur le mot prochaine, nous avons deux fois prochaine dans la lettre litigieuse. Nous l'avons une fois dans la lettre de comparaison. On voit très bien que les proportions de lettres sont tout à fait similaires, c'est-à-dire qu'on commence avec des lettres qui sont grandes et qui se rapetissent au fur et à mesure pour s'inscrire dans un rail. Et nous avons aussi l'attaque du dé, mais qui n'est pas significative par elle-même. Je dirais qu'à la limite, ces deux mots « semaine » et « prochaine » sont beaucoup plus parlants que cet indice morphologique sur la lettre « D ».
Qu'est-ce que vous avez conclu ? C'est la même personne qui a écrit ces deux documents ?
Effectivement, c'est la même personne, mais bon, il faut quand même savoir que je n'avais pas que ce document de comparaison, il y en avait d'autres. On ne se prononce pas sur une seule pièce.
Mais alors, on peut aussi falsifier son écriture. Comment est-ce qu'on s'y prend ?
On va tout simplement aller à l'encontre du naturel. C'est-à-dire que celui qui a une écriture grande va la rapetisser ou inversement. Celui qui a une écriture inclinée, il va la renverser. Ce sont deux indices déjà. Bon, il va modifier la forme également de l'écrit. En règle générale, quand on déguise son écriture, on revient à une écriture relativement scolaire. C'est quelque chose, je dirais, d'instinctif.
Alors, qu'est-ce qu'on falsifie le plus souvent dans les affaires judiciaires ?
Les testaments, les assurances-vie, les crédits et les chèques.
Dans les affaires criminelles crapuleuses, il est souvent question de faux en écriture. Un chèque falsifié, c'est ce qu'a perdu Philippe Dubois. L'homme et ses deux complices ont assassiné une mère et son fils pour leur voler leur magot, qu'ils n'ont pas trouvé. Alors, ils ont encaissé un chèque. Mars 2002. Dans la banlieue de Nice, une femme de 71 ans, Francine Véran-Raspini, et son fils Marc ont disparu. Ce sont leurs voisins qui ont donné l'alerte. La mère et le fils vivaient en vase clos, isolés, pas d'amis, pas de famille. Pourtant, ils sont à la tête d'une énorme fortune. Un beau parc immobilier dans le centre-ville de Nice, un immense terrain sur la colline de Guéraud et une grande bâtisse bourgeoise où ils vivent.
Madame Véran-Raspini, qui est issue d'une vieille famille niçoise, gère les biens immobiliers de sa famille. Un petit peu à l'ancienne, elle est favorable au paiement en liquide de ses loyers, elle a eu des problèmes avec le fisc, donc elle a décidé visiblement de ne plus verser son argent sur des comptes. Elle vit un petit peu dans un système qui est assez autarcique, qui est fermé.
Toujours aucun signe, ni de la mère, ni du fils. Alors les policiers perquisitionnent leur domicile, mais ils n'y trouvent aucune trace de lutte. Les policiers ont bien entendu parler d'un Philippe Dubois, un homme violent qui loue aux Raspini un cabanon sur leur terrain et avec lequel Francine Véran-Raspini avait eu un différend, mais rien de concret. Alors, les enquêteurs épluchent et surveillent les comptes en banque des Véran-Raspini. Depuis leur disparition, aucun mouvement, aucun retrait. Aucun, jusqu'au 5 avril 2002, soit 3 semaines plus tard.
Nous allons recevoir un avis de l'établissement bancaire, la BNP, de Madame Véran-Raspini, nous avisant de l'encaissement de deux chèques d'un montant important.
Le premier est de 17 500 euros, l'autre de 11 000. Curieux ces gros chèques. Les signatures ont-elles été imitées ? Voici le début d'une piste, deux chèques litigieux, l'enquête commence enfin.
Nous allons travailler sur les personnes, les bénéficiaires des deux chèques, hein, Patrick et Laurent Gauvin.
Patrick et Laurent Gauvin, un père et son fils.
Ce sont des gens qui, sans être à la marge de la société, ils sont en bordure, ils travaillent et puis ils ne travaillent pas, ils sont un petit peu dans des situations, une certaine précarisation.
Ce sont deux personnes qui sont connues de la police, pas pour des faits très graves, mais bon, ils ne comprennent pas pourquoi ils créditent leur compte de 17 000 et 11 000 euros. Et ensuite, il y a des débits immédiats en 3 retraits. Ils retirent chacun la quasi-totalité du versement.
Les policiers découvrent alors que Philippe Dubois, le locataire du cabanon avec lequel Mme Raspini a eu des problèmes, et les deux Gauvin se connaissent.
Nous allons les placer sous écoute téléphonique et on va s'apercevoir très rapidement qu'ils sont en relation. Les Gauvin, Patrick et Laurent et Philippe Dubois sont en relation constante. Ils ont des relations d'amitié, ils ont des relations habituelles.
On constatera aussi qu'ils ont, pour les Gauvin, un peu plus d'argent, ce qui n'était pas le cas. Laurent Gauvin va s'acheter une montre, va s'acheter de gourmettes, il va faire des cadeaux à sa copine. Ce que, alors auparavant, on sait qu'il n'avait pas du tout d'argent.
Qui a rempli les chèques ? Pour le savoir, les policiers doivent arrêter les 3 hommes, mais ils n'ont pas assez de preuves encore. Alors ils tentent un coup, médiatiser l'affaire pour les affoler. Et ça marche. Tous se téléphonent. Ils parlent des Raspini, des chèques. Les conversations téléphoniques sont accablantes. Le 16 avril 2002, plus d'un mois après la disparition de la mère et du fils, les policiers arrêtent les 3 hommes.
Bon, manifestement, ils sont entendus avant quand même l'interpellation, puisque ça se passe plus d'un mois après la commission des faits. Donc ils ont mis au point une stratégie de ce qu'ils allaient dire à la police. Ils avaient décidé de dire que c'était Marc Raspini qui leur avait confié ces chèques, pour une raison qu'on ne comprend pas bien, mais il ne pouvait pas lui-même mettre les chèques sur un compte bancaire et tirer le liquide, donc il aurait demandé ce service au Gauvin.
Mais finalement, après plusieurs heures de garde à vue et une nuit de réflexion, les Gauvin flanchent.
Ils diront justement que Philippe Dubois leur fait très peur, qu'il a beaucoup de charisme, qu'il est violent, que Philippe Dubois leur a proposé de faire un mauvais coup chez la Raspini, mais que bien sûr, eux n'ont pas voulu le faire, qu'ils n'ont bénéficié que d'échecs, puisque Dubois leur avait demandé d'encaisser l'échec pour lui. Voilà. Mais eux ne seront jamais montés dans cette propriété. Ils rejetteront tout sur Philippe Dubois.
Mais Philippe Dubois, lui, ne se met pas à table et nie toute implication. Il explique qu'il ne connaissait même pas l'existence de ces chèques. Mais confronté aux écoutes, il est obligé de faire marche arrière. Alors, oui, il était bien au courant pour les chèques, mais pour lui, ces chèques venaient d'un cambriolage.
Il charge les Gauvin en disant « Ouais, mais les Gauvin ont toujours eu, c'était récurrent, des problèmes d'argent. Donc c'était pas étonnant que ce soit eux, je pense que c'est eux. »
Le juge d'instruction veut absolument connaître l'auteur de ces deux chèques encaissés par les Gauvin. Il fait appel à un expert en écriture.
La première des opérations, c'est évidemment de savoir si monsieur ou madame Raspini pouvait être ou ne pas être les auteurs des écrits. Ça, c'est la première des choses. Donc, pour l'écriture, il n'y avait aucune difficulté. Il n'y avait pas de... C'était évidemment pas eux qui avaient rédigé.
Alors, qui a imité l'écriture des Véran Raspini ? L'expert compare l'écriture de chacun des trois hommes avec celle des deux chèques.
Prenons par exemple un usage particulier qui est la construction des dates. On voit qu'on a une majuscule de petite taille. Et surtout, la construction du millésime qui est tout à fait remarquable, avec la première et le premier et le dernier chiffre de très grande taille, avec ces petits zéros étriqués, on a un geste parfaitement identique. C'est un geste qui est évidemment naturel et qui est attribuable puisqu'on le retrouve à l'identique dans l'écriture de Philippe Dubois.
Alors, confronté aux conclusions de l'expertise, Philippe Dubois est coincé. Il reconnaît avoir rédigé les chèques dérobés au Véran Raspini. Il ne peut plus nier son implication.
Et comment faites-vous pour identifier l'auteur crapuleux d'un chèque ? Par exemple, sur un chèque, il y a très peu d'informations. Il y a des chiffres, il y a trois mots, il y a une signature.
Je vais vous prouver le contraire. Faites-moi donc un chèque, s'il vous plaît. Voilà.
C'est un gros chèque.
Ah, c'est un gros chèque. Merci, merci, monsieur Rizet. Alors voilà, sur ce chèque, nous avons notamment le symbole euro qui est écrit en entier. Or, vous avez certaines personnes qui ne font que le symbole lui-même. Vous, vous l'avez écrit en toutes lettres. Vous avez, par exemple, au niveau du 700 000, je dévoile le montant du chèque, vous n'avez pas rajouté de virgule, vous n'avez pas rajouté de décimale, c'est un indice aussi. Vous n'avez pas mis de point entre 700 et les trois zéros. La date, vous avez mis le mois en écriture cursive. Par exemple, au niveau de la date, on peut avoir des dates différentes, 03, 08... 12, séparés par des chiffres, des barres obliques, des points, des tirets, etc., etc.
Ça, sont mes automatismes. On va dire que là, j'ai falsifié le chèque, par exemple. Je sais que je vous fais un faux chèque de 700 000 euros.
Très bien.
D'habitude, j'écris 03-08-2012. Oui. Et là, j'ai volontairement, supposons que j'ai fait ça, écrit 03-août-2012. Je mets un point entre 700 et 1000. Là, je ne l'ai pas fait. Et j'écris euro avec le sigle. Là, j'ai fait différemment.
Très bien.
Comment allez-vous me démasquer ?
Alors, tout simplement, je vais vous donner une trentaine de chèques à remplir, le plus rapidement possible, et vous ne pourrez pas maintenir votre contrôle de façon permanente pendant toute la durée de cette réalisation.
C'est-à-dire que mes automatismes vont revenir ?
À un moment ou à un autre. Il y en a l'un ou l'autre qui va revenir. De la même manière, la position de la signature, on a chacun, lorsqu'on signe un chèque, des habitudes, on positionne la signature à un endroit donné, près de la date, en décalé sur la gauche, en décalé sur la droite, vers le bas, etc. Ça, c'est un automatisme.
Est-ce que deux personnes ne peuvent pas avoir simplement la même écriture, deux personnes d'une même famille ?
Absolument, ça se produit assez fréquemment que deux personnes d'une même famille aient une écriture très ressemblantes.
Donc vous risquez de vous tromper.
Alors on recherche les différences, tout simplement. Parce que qu'est-ce qui permet de différencier les écritures? Ce ne sont pas les similitudes. À partir du moment où les écritures se ressemblent, on va chercher les différences.
Là, c'est le cas de figure idéal pour vous. Vous avez un élément de comparaison, une écriture de comparaison. Mais si on vous donne un document sans aucun élément de comparaison, on vous donne la lettre d'un corbeau, on vous donne une lettre anonyme, et vous n'avez que ça. Comment allez-vous réussir à la faire parler?
Alors la lettre anonyme, il me faut des documents de comparaison, obligatoirement.
Donc vous ne saurez rien. À partir d'un document anonyme, vous ne pouvez rien trouver. Est-ce que vous pouvez dire des choses sur la personnalité de celui qui l'a écrite?
Ce qu'on peut trouver, par exemple, ce sont des modes d'expression, ce sont des syntaxes particulières, une construction de phrases spécifiques. Un exemple qui me vient à l'esprit, notamment d'un texte qui comportait certains termes qu'on utilise classiquement en informatique. Puis effectivement, il s'est révélé que le corbeau en question était informaticien.
Malheureusement, les juges d'instruction n'ont pas toujours pensé à recourir à l'expertise en écriture, alors qu'elle aurait pu accélérer l'enquête et sauver des vies. C'est le cas dans l'affaire Lamarre qui a défrayé la chronique en 1978. Tout a commencé le 31 mai. Ce jour-là, les gendarmes ont fait une bien étrange découverte dans la forêt de Chantilly.
Une équipe du PSIG découvre dans un chemin de terre au carrefour des Ripailles une 504. Un véhicule abandonné, le pare-brise est cassé, la lunette arrière est cassée, brisée apparemment un coup de feu.
Croyant à une affaire de banditisme, les gendarmes alertent la police judiciaire.
On découvre dans ce véhicule des cordages comme si quelqu'un avait été attaché sur le siège passager, des mégots de gitane blanche, une seringue hypodermique ayant contenu un produit, on ne sait pas quoi, une poudre blanche.
Sur le siège passager, un indice inquiétant, un mouchoir taché de sang.
Et puis des douilles de 9 mm anciennes, également des douilles de carabine US.
Une mise en scène ? Les policiers sont perplexes. Deux mois plus tard, à Pont-Sainte-Maxence, toujours dans l'Oise, une jeune fille de 17 ans est victime d'une curieuse agression à minuit, alors qu'elle sortait d'une séance de cinéma.
Elle rentre chez elle et à ce moment-là, un individu qui circule à bord d'un véhicule Grenat tire à plusieurs reprises sur elle.
La jeune fille s'en sort avec une balle dans le mollet. Ses jours ne sont pas en danger. Puis, 10 jours plus tard, un gardien de la paix contrôle une voiture en stationnement irrégulier.
Il ouvre la portière du véhicule et s'ensuit immédiatement une détonation suivie d'un incendie.
Une voiture piégée. Le gardien de la paix est brûlé au visage et aux mains. La Renault 12 avait été volée. C'est à ce moment-là que la police reçoit une lettre anonyme.
Monsieur le commissaire Thiéfine, commissariat de Creil. Monsieur, cette lettre est écrite afin de vous fournir quelques précisions concernant la voiture Renault 12, rouge, immatriculée 1303QG02.
Et l'auteur mystérieux revendique tout. La voiture dans la forêt de Chantilly, l'agression de la jeune fille et la voiture piégée. Plus inquiétant, il dit qu'il va recommencer.
Cette lettre n'est pas une confession qui exigerait de nombreuses pages. C'est seulement un avertissement. Transmettez-le. Signé, point d'interrogation. Bon. Ça veut dire que c'est le début, ça va continuer. Vous allez voir ce que vous allez voir. Hein ? Ce n'est qu'un début.
Ce n'est pas un canular. Les empreintes relevées sur la R12 piégée et celles retrouvées sur la lettre anonyme sont identiques. Et à bien s'y pencher, cette lettre donne des indications particulières. Un gendarme commence à tiquer.
Moi, je lis la lettre et curieusement, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y avait des expressions dans cette lettre qui je me suis dit, mais c'est un gendarme qui a écrit ça. Le véhicule Renault 12, de couleur rouge, immatriculé, ça c'est chez nous, ça. Hein. Il y a des expressions qui sont typiquement gendarmes. Alors là, mon adjoint, tout le monde, tous ceux que j'avais autour, ils m'ont dit, mais c'est pas possible, voyons, un gendarme, voyons, c'est pas possible. Ils m'ont dit, mais attendez, mais un gendarme, c'est un homme comme un autre. Je ne dis pas qu'il est en activité, mais les gens là, il y a des gendarmes qui tombent malades, il y a des gendarmes qui sont soignés, il y a des... Puis les hommes, c'est les hommes. Hein.
Mais lorsque Pinault confie ses doutes à ses homologues officiers, il est vertement remis à sa place.
À Colson, il est scandalisé. Ah mais c'est honteux, honteux de penser que j'appuie ça à un gendarme, c'est honteux. C'est une injure faite au personnel de la gendarmerie nationale.
Le capitaine Pinault vérifie tout de même les emplois du temps de ses hommes, sans succès. Alors, il abandonne. Ce qu'il ne sait pas, c'est que certains policiers, eux aussi, ont un doute. Mais comme chez les gendarmes, la pilule a du mal à passer.
Je crois qu'il est difficile pour un policier, pour un gendarme, pour au-delà pour un militaire, hein, de penser un seul instant qu'il puisse s'agir d'un des leurs, d'un des nôtres.
Le commissaire de Creil n'hésite pas à prendre une initiative personnelle, la même que le capitaine Pinault.
J'ai, au feeling, procédé à quelques vérifications sur l'emploi du temps de certains fonctionnaires, sur des critères tout à fait vaseux, hein, qui ne prouvaient rien. Bon, critères sur vie privée bizarre, vie privée dissolue, comportement caractériel, nerveux, nervosité, etc. Bon. Je n'y ai rien trouvé, j'aurais pu me tromper.
Du côté de la police comme de la gendarmerie, les vérifications ne donnent rien. Quelques mois passent, sans incident. Puis le 1er décembre 1978, derrière l'hippodrome de Chantilly, de nouveau une alerte, plus grave. Des personnes ont aperçu une jeune femme allongée sur le bord de la route.
Je pense qu'elle a eu un malaise au début, se précipite. En fait, cette jeune femme a reçu plusieurs balles dans le corps. Elle est hospitalisée d'urgence, hein, elle s'appelle Yolande, et malheureusement, elle décède le soir à la clinique des Jockeys.
Cette fois, le criminel a tué une jeune fille. Elle avait 19 ans et il ne s'arrête pas là. Fin décembre, une autre jeune fille est grièvement blessée par balle sur le bord de la route, mais elle est consciente et donne une description de son agresseur.
Un homme jeune qui parlait avec aisance, fort sympathique, beau garçon, très bien habillé, avec les mains extrêmement soignées, les ongles soignés. Il lui a parlé de la pluie du beau temps, puis à un moment, il lui a dit « je vais vous faire mal », elle a tourné la tête, elle a vu qu'il avait une arme dirigée de notre côté, il a tiré trois fois.
Immédiatement, les gendarmes déclenchent une chasse à l'homme. Mais le fuyard échappe à tous les barrages, un échec incompréhensible, qui donne du corps à la piste d'un assassin familier des forces de l'ordre. Le style de la lettre anonyme, son écriture, le savoir-faire du fugitif, et si c'était vrai? Et si le tueur de l'Oise était un gendarme ou un policier? L'ambiance devient lourde.
Nos regards se tournaient de plus en plus, si vous voulez, vers la gendarmerie. Et la gendarmerie portait peut-être de plus en plus ses regards un peu plus vers la police. Je veux dire beaucoup plus clairement que on commençait à se suspecter un peu réciproquement et dangereusement.
Mais un gendarme commence à avoir quelques doutes sur un de ses collègues, un certain Alain Lamarre. Il en a presque honte. Il veut en avoir le cœur net. Alors en cachette, il compare l'écriture des procès-verbaux rédigés par le gendarme Lamarre avec celle de la lettre anonyme.
J'ai observé des similitudes d'écriture flagrantes. Hein, vous savez, par deux fois avec les loupes, même la loupe de ma grand-mère, je me souviens qu'elle était rose. Je disais, c'est pas plus.
Ah oui, qu'il a hésité. Hein. Il était deux nuits sans dormir. Hein.
Et à un moment, il s'est lancé.
Bah, après, il a dit. Bah écoute, il n'y a pas, tant pis. Hein. J'y vais, on verra bien ce qui se passera après.
Le gendarme se résout à consulter son supérieur, le capitaine Pinault. Convaincu, l'officier en parle au supérieur de Lamarre.
Et on discute, je dis, mais il est comment Lamarre? Mais il me dit, c'est mon meilleur. C'est mon meilleur. C'est le seul qui s'intéresse à l'affaire. Tous les jours, il me demande alors qu'on l'a arrêté, ce salaud, qu'on lui coupe la tête. Et je lui pose la question, vous avez vérifié un peu du temps? Il me dit non. Comment non? Non, le commandant Colston a donné l'ordre de ne pas le faire. Vous rendez compte?
Commence à prendre depuis le début des affaires et on s'aperçoit très vite qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, il est hors service, si vous voulez. Et là, je dois dire que très vite, on a les boyaux qui se nouent, comme on dit, vous avez une frousse qui vous vient là, quelque chose qui vous serre les tripes.
Lamar est bien le tueur de l'Oise. L'intuition de quelques policiers et gendarmes était bien la bonne. La lettre anonyme en disait long et n'a pas été exploitée. Une telle accusation était sans doute trop lourde à porter.
Dans un dossier comme l'affaire Lamar, au niveau de uniquement de la sémantique, de la tournure des phrases, est-ce que l'expertise en écriture aurait pu apporter quelque chose ?
Effectivement, je pense que rien que l'analyse du texte, l'analyse de la tournure des phrases, l'analyse des expressions, parce qu'il existe des expressions corporatistes, des expressions professionnelles, l'informaticien ne va pas utiliser les mêmes expressions que par exemple un gendarme. Donc rien que l'analyse des textes elle-même aurait peut-être pu mettre sur la voie.
Quels sont les pièges dans lesquels l'expert doit veiller à ne jamais tomber ?
Alors, le premier piège, ce sont les similitudes. Il n'y a rien de tel. Les similitudes, ce sont des ressemblances entre deux écritures. Or, les ressemblances entre deux écritures, il faut toujours s'en méfier. On peut, dans certains cas, retrouver des différences. Ces différences vont être des particularités propres à chacun. Donc, tant qu'il existe une différence, on ne peut pas s'appuyer sur les ressemblances pour accuser quelqu'un.
Et est-ce qu'on garde toute sa vie la même écriture ou est-ce qu'on change ?
L'écriture peut évoluer au cours de la vie. Elle peut notamment changer du jour au lendemain suite à un traumatisme psychologique. Elle peut également être modifiée par des traitements médicaux. Elle peut rajeunir sous le coup de traitements médicaux. Et elle peut se dégrader, bien sûr, avec l'âge.
Est-ce que vous, vous en tenez compte dans vos expertises ?
Il est important d'avoir un dossier de comparaison au moins sur une dizaine d'années pour vérifier si l'écriture est restée constante ou si elle a évolué ou si au contraire elle s'est dégradée.
Donc on peut changer d'écriture au cours de sa vie, mais est-ce qu'on peut aussi changer d'écriture en fonction de son humeur ?
Absolument. L'écriture n'est qu'une émanation de la personnalité. On peut changer d'écriture, par exemple, lorsque je fais écrire certains détenus. Il arrive un phénomène d'usure. À un moment donné, ils changent d'écriture.
Ça vous est arrivé ? Vous l'avez constaté
Absolument.
Déjà ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, c'était tout simplement un exercice d'écriture effectué en prison. Ce détenu avait deux écritures totalement différentes qui m'avaient été fournies par le juge d'instruction. Il était impossible de faire le lien entre ces deux écritures. Donc il a fallu le faire écrire. Je l'ai fait écrire jusqu'à l'usure. Et à un certain moment, il s'est carrément mis en colère. Et après son coup de colère, son écriture a changé au sein d'une même phrase. Et c'est l'élément qui m'a permis de raccrocher la première écriture à la seconde.
Alors, si on a une lettre anonyme, une lettre de corbeau, et qu'on veut identifier son scripteur, comment est-ce qu'on s'y prend ?
Il faut rechercher des éléments de comparaison.
Alors, comment impérativement.
Comment fait-on ? Alors, en règle générale, c'est le juge d'instruction qui s'en occupe. L'important dans les lettres de corbeau, c'est de faire écrire déjà l'environnement. La plupart du temps, on sait que l'origine des lettres de corbeau, elle est relativement proche.
Une dictée à tous les membres de la famille. C'est l'histoire de l'affaire Villemain. Le 16 octobre 1984, un petit garçon de 4 ans, Grégory Villemain, est retrouvé mort, ligoté, jeté dans la Vologne. Le lendemain, les parents de l'enfant, Christine et Jean-Marie Villemain, reçoivent une lettre anonyme qui revendique le crime. Le corbeau a déjà écrit à 3 reprises aux Villemain. L'année précédente, en 1983, un mot glissait dans les volets. « Je vous ferai votre peau à la famille Villemain ». Puis, 2 lettres, une en majuscule, une autre en cursive. On y désigne le chef. Le chef, c'est Jean-Marie Villemain.
Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette lettre-là ? Quels sont les mots, les thèmes qui réapparaissent tout le temps ? C'est vengeance, haine, argent et le chef. Grégory est sacrifié à la haine, au désir de vengeance que quelqu'un éprouve à l'encontre de Jean-Marie. Ça, c'est quelque chose qui est clair.
Le corbeau a mis ses menaces à exécution. Et cette fois, le couple Villemain, effondré, reçoit une lettre qui revendique le meurtre de leur enfant.
C'est un billet très court, hein. La lettre dit textuellement « Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils, voilà ma vengeance, pauvre con. »
Pour les gendarmes, l'assassin c'est le corbeau. Alors, qui peut haïr Jean-Marie Villemain au point de lui écrire après le meurtre « J'espère que tu mourras de chagrin ». Le corbeau connaît très bien le couple. Il ferait même partie des proches. Alors, chaque membre de la famille Villemain est prié de faire une dictée. Et le juge d'instruction décide de réunir plusieurs experts en écriture. Première constatation, les lettres du corbeau ont été écrites par la même main. Vient ensuite le travail de comparaison, qui aboutit très vite à un nom, celui d'un certain Bernard Laroche.
Je suis restée tout l'après-midi où j'ai travaillé sur le dossier des 147 ou 148 personnes, je ne me rappelle plus, et ce qui m'a permis d'éliminer, de me concentrer effectivement sur l'écriture de Bernard Laroche. Et là, vers 5 heures, j'ai rappelé le capitaine Sesmat. Je lui ai dit, écoutez, j'ai une opinion, voilà mon opinion. N'est-ce pas, je ne peux pas dire qu'il soit le meurtrier. Je dis, c'est lui qui a écrit les lettres.
Bernard Laroche est un cousin germain de Jean-Marie Villemain.
C'est tout ce qui se passe dans la famille grâce à ses relations avec Michel et Ginette. Donc, c'est quelqu'un qui nous intéresse. C'est quelqu'un qui, en apparence, est connu comme quelqu'un de bonhomme, de sympathique, etc., qui correspond relativement bien au profil donné par les experts sur un corbeau potentiel.
Le juge et les gendarmes sont impressionnés. Mais ce n'est pas tout. Sur l'une des lettres, un expert découvre un nouvel indice.
On voyait assez nettement les traces de ce qui ressemblait à une signature.
Sur la lettre de revendication.
Sur la lettre de revendication qui provenait d'un bloc et qui donc avait reçu l'empreinte d'écrit tracé auparavant sur le même bloc.
C'est ce qu'on appelle un foulage. Pour le faire apparaître, il faut promener un faisceau lumineux sur la feuille.
Ce foulage, donc, avec des moyens adaptés, donc de lumière rasante, avec une incidence rasante, on a pu voir un L et un B, effectivement, une défoulage très nettement. La lettre L était donc d'une lettre L donc calligraphique avec une grande entame, hein, courbe à la partie supérieure également, et la lettre B était donc d'une lettre typographique, donc un B typographique tout à fait de ce qui est plus courant.
Et ce qui est encore plus troublant, c'est que lorsqu'on superpose le L et le B gravés dans la lettre du corbeau, avec la véritable signature de Bernard Laroche, ça colle.
Alors ça, c'est un terme de l'expertise en écriture. Qu'est-ce que c'est qu'un foulage ?
Alors le foulage, c'est tout simplement l'empreinte laissée dans le papier qui a servi de sous-main lors de la rédaction de l'original.
Sur la feuille du dessous ?
Sur la feuille du dessous. Donc si par exemple je vous demande le chèque qui était sous le chèque que vous m'avez fait,
oui,
on va vérifier. Ben voilà. Ben on va vérifier s'il y a des traces de foulage.
Alors comment faites-vous ?
J'éclaire tout simplement le chèque avec une lumière rasante et regardez.
On voit apparaître des marques.
Voilà.
Les
caractères.
On peut presque lire.
On peut les lire effectivement.
Ça peut marquer sur plusieurs pages ?
Ça peut marquer sur plusieurs pages selon l'épaisseur du papier et selon la pression exercée sur l'instrument utilisé. Mais en fait, l'idéal, c'est de confier le document à la police scientifique qui, elle, va utiliser un appareil appelé ESDA. C'est un appareil qui va permettre de faire un film du foulage.
Qu'est-ce que ça apporte comme preuve dans une affaire criminelle ?
Ça apporte des indications. Ce n'est pas une preuve en soi, mais on obtient des indications. Par exemple, dans des affaires civiles, je pense notamment à des cessions de parts sociales, on arrive à vérifier quel a été l'ordre de signature de la position des paraphes et de la signature finale.
Les expertises en écriture accablent donc de façon formelle Bernard Laroche. Mais coup de théâtre, trois collègues de Christine Villemain, la mère de Grégory, la mettent en cause. Alors, rebelote. Le juge d'instruction demande une nouvelle expertise en écriture, une expertise qui va tout remettre en cause.
Nous avons dû rendre notre rapport le 15 février. Et un petit peu avant le 4 février, le juge me téléphone en me disant « Donnez-moi vos conclusions. » Ah, je dis « Monsieur le juge, il n'en est pas question. D'ailleurs, on s'était mis d'accord, on ne donnera pas nos conclusions. » Bon. Il m'a dit « Dites-moi seulement si c'est Bernard Laroche. » Je lui dis « Pourquoi vous me demandez ça ?» Parce qu'il me dit « Si ce n'est pas lui, je le remets en liberté dans 2 jours. » Et ben je lui ai dit « Ben oui, ce n'est pas Bernard Laroche. » Mais il y avait ma consœur qui était avec moi, et on avait pris cette décision, on a dit « Bon, parce que c'était pour libérer un type qui, pour nous, il était pour rien. »
Le juge Lambert décide donc de rendre sa liberté à Bernard Laroche.
Quel médecin, quel expert psychiatre l'a examiné ? Qui s'est davantage intéressé à lui ? Je crois personne, il est resté là, et il est devenu cet innocent par défaut.
Début juillet, l'expertise tombe sur le bureau du juge Lambert. Et ses résultats lui donnent raison. Pour les experts, le corbeau, c'est Christine Villemain, la mère. Les gendarmes n'en reviennent pas.
Il est évident que la question des expertises et des experts, surtout, reste pour moi un grand point d'interrogation. Comment des personnes spécialisées de manière très très pointue dans un domaine peuvent dire des choses radicalement opposées. Ça, pour moi, ça reste un grand mystère.
Nous, on a fait notre travail honnêtement. On n'avait aucun intérêt, si vous voulez, à désigner A ou B. Bon, et si vous voulez, on a été traînés dans la boue. On nous a dit qu'on était des bons à rien, etc., etc. Ça a été écrit dans la presse. Alors, vous savez, c'est quand même pas plaisant quand vous avez fait honnêtement votre boulot. Parce que vous savez, nous, la solution de facilité, hein, c'était de désigner Laroche qui était déjà... bon, puis voilà. Hein.
La mère de Grégory est alors arrêtée.
Christine Villemain était encore sans entrave lorsqu'elle s'est présentée devant le juge Lambert au palais de justice d'Épinal. Il était 16h30. 2 heures plus tard, elle était inculpée d'homicide volontaire sur la personne de son fils Grégory et écrouée à la prison de Metz.
Mettre le sceau sur cette femme d'une telle inculpation, c'est l'irréparable. L'irréparable a été commis.
11 jours après, Christine Villemain est remise en liberté pour manque de preuves. Plus tard, elle est totalement innocentée par un non-lieu. L'enquête a abouti à une catastrophe judiciaire. Le meurtrier du petit Grégory n'a toujours pas été identifié.
Suzanne Schmidt, comment est-il possible que des experts, 2 experts, puissent donner un avis, 2 avis, aussi diamétralement opposés ?
Alors d'abord, il faut vérifier, il faut voir, c'est de travailler sur les mêmes documents de comparaison. Parce que si on ne dispose pas des mêmes documents, on peut avoir des avis divergents. Par ailleurs, il faut vérifier si la méthodologie a été respectée. C'est-à-dire, est-ce que l'examen intrinsèque a été bien fait ? Est-ce que l'examen critique des pièces de comparaison a été fait dans les règles de l'art ? Donc ça, ce sont les 2 causes fondamentales des dissensions.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rendre une expertise qui était complètement opposée, complètement contradictoire après un autre expert?
Dans une affaire criminelle, 2 experts avaient rendu un avis totalement différent du mien. Je suis arrivée en 3e déposition, avec donc mon avis, lequel a été confirmé par un autre indice matériel qui a permis de crédibiliser l'opinion que j'avais sur la chose.
Et puis une autre affaire en correctionnel?
Une autre affaire en correctionnel où effectivement, une multitude d'experts ont donné un avis similaire.
Combien ?
Il y a eu 7 experts qui ont donné un avis totalement affirmatif, accusant donc une personne. Et je suis arrivée en 8e position avec un avis différent, lequel a été confirmé par un collège d'experts.
Du coup, est-ce qu'on peut vraiment accuser quelqu'un de façon formelle à partir d'une expertise en écriture ?
Dans certains cas, oui.
Dans quel cas ?
Lorsqu'on a eu suffisamment de documents de comparaison pour faire un travail de fond, on peut effectivement être affirmatif.
Qu'est-ce qui peut permettre à votre profession d'expert en écriture d'évoluer, d'avancer. Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que ce sera autre chose?
La technologie y participe effectivement. Si on arrive à mettre au point d'autres méthodes d'analyse pour les documents, ça peut effectivement aider. Pour l'écriture, je ne vois pas. L'écriture, c'est toujours l'écriture. Et en fait, il faut être très, très critique dans son observation, très pertinent, très, très objectif dans son observation.
L'expertise en écriture n'est pas une science exacte, mais une science humaine. Moins fiable que les expertises génétiques, elle est pourtant complémentaire et apporte des éclairages importants, une aide précieuse pour la justice.